enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Mon thème ce matin, c'est le combat spirituel. Le combat spirituel. Regarde ton voisin et dis-lui... On va apprendre à se battre. Malgré le fait que vous avez un soldat fatigué, on va parler du combat spirituel. En introduction, nous évoluons tous dans le monde physique. Nos cinq sens nous permettent d'être en contact avec ce dernier et en contact les uns avec les autres. Nos actions, nos réactions sont le fruit de ce que nous touchons, de ce que nous voyons, de ce que nous sentons, de ce que nous entendons. Je vous donne un exemple, je l'ai déjà pris. Lorsque je rentre chez moi, j'ouvre la porte dans le couloir et ça sent bon. Je reçois par l'un de mes sens, qui est l'odorat, une information. Et l'information me dit, aujourd'hui, elle a réussi. À partir de là, l'information est bien m'est donnée, une décision est prise et une action est entreprise. Je cours à table et je m'installe. Et là, tout mon être loue le Seigneur. Reprenons la même situation. Je rentre à la maison, j'ouvre la porte et je sens une offrande de fumée en sacrifice à l'Éternel. En d'autres mots, c'est cramé. L'information m'arrive, une décision est prise et elle me dit « va manger chez ta mère ». Vous voyez ? Et bien c'est comme ça que nous fonctionnons. Nos cinq sens nous mettent en contact avec le monde dans lequel nous vivons et au travers de ce que nous percevons, nous interprétons ce que nous percevons comme étant la réalité. D'où cette fameuse phrase « je ne crois que ce que je... » voix. Ceci dit, cela nous amène à une question de fond qui se pose à chacun d'entre nous. La réalité n'est-elle faite que de ce que nous voyons, sentons, touchons, ce que nous percevons en un mot au travers de nos cinq sens, ou alors y a-t-il une autre réalité aussi présente que nous ne voyons pas, mais qui pourtant exerce une influence sur chacun et chacune d'entre nous? Il y a dans cette salle des germanophones. Ils ont, alors que je vous parle, sur leur tête des casques pour comprendre la prédication dans leur langue à eux. La retransmission est faite par ondes radio. Ils sont là au milieu de nous. Alors que moi je vous parle en français, eux perçoivent d'autres choses. Par le moyen des ondes que vous et moi, nous ne voyons pas, nous ne touchons pas, nous ne goûtons pas et nous ne sentons pas. Pourtant, ces ondes sont réelles. Elles sont bien présentes. Elles exercent une influence sur certains qui sont branchés maintenant sur ce canal-là. De la même manière, frères et sœurs, chers amis qui peut-être êtes là pour la première fois, j'aimerais vous dire, comme dans le monde physique, on peut constater, une présence d'éléments invisibles, mais qui pourtant sont une réalité et nous influencent. Ainsi en est-il dans le monde spirituel. Il y a le monde spirituel qui nous entoure. Et ce matin, mon objectif est de vous ouvrir l'esprit à cette dimension de l'invisible dont nous constatons les effets. Trop de croyants négligent cette dimension, subissent les conséquences, cherchent des explications rationnelles à leurs problèmes, n'en trouvent pas parce que la solution ne se trouve pas dans le monde rationnel, mais se trouve dans le monde spirituel. Et si vous ne comprenez pas cela, vous risquez de passer votre vie à vous battre, mais sur le mauvais champ de bataille. Ce matin, premier point. La réalité du monde spirituel selon ce que la Bible nous enseigne. L'apôtre Paul souvent s'adressant à ceux à qui il écrivait ou parlait, disait « Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ces choses. » Et à partir de là, il commençait. Et je voudrais ce matin dire la même chose. « Je ne veux pas, frère, je ne veux pas, sœur, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ces choses-là. » La Bible nous enseigne clairement que nous sommes entourés d'un monde spirituel. Il n'y a pas seulement le Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous parle, qui nous conduit. C'est une présence invisible. Il n'y a pas seulement Jésus qui a dit que là où deux ou trois sont réunis, il est au milieu d'eux. Il n'y a pas seulement le Père qui manifeste sa gloire. La Bible nous parle également du monde angélique. Il est dit dans le psaume 103, verset 20, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Psaume 91, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Mon frère, ma sœur, tout au long de l'Ancien Testament, tout au long du Nouveau, le monde invisible va, dans certaines situations, eh bien se révéler. Et à ce moment-là, Gédéon, par exemple, désespéré, va voir un ange venir, l'encourager et lui parler en lui disant « Vaillant héros !» Écoutez bien, l'apôtre Pierre dit même que certains, sans le savoir, ont hébergé des anges. Qui aime exercer l'hospitalité? Ah, si vous ne l'exercez pas, ne levez pas la main. Hein. Ceux qui exercent l'hospitalité, levez voir la main. Eh bien, j'aimerais vous dire que la Bible nous dit ce matin que sans le savoir, vous pouvez accueillir un ange de l'Éternel. Waouh ! 22 ans que Dominique abrite un ange de l'Éternel. Et 22 ans qu'elle s'en rend pas compte. Mais ce matin, tout changera. Marie va avoir un ange qui arrive, Gabriel, et qui va commencer à lui parler en lui disant qu'elle va porter le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Le serviteur d'Élisée, lui, avait un gros problème. Il sort tôt le matin, il voit que tous les ennemis de son maître, c'est-à-dire d'Élisée, entouraient le lieu où ils étaient. Écoutez ce qu'il est dit, 2 Rois 6, 15 à 17. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Le problème, c'est que lui, il ne voyait que ceux qui étaient contre eux. Écoutez ce que Élisée fait. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Soudain, le serviteur voit dans le monde spirituel la présence des chars de feu. Et à ce moment-là, il n'a plus peur. Nous ne sommes pas suffisamment conscients du monde spirituel qui nous entoure. Si nous avions conscience des anges qui sont présents autour de nous, nous aurions souvent moins peur. Mais c'est pas parce que nous ne les voyons pas qu'ils ne sont pas présents. J'aimerais vous donner deux témoignages. Ma sœur Ruta, qui je crois est là ce matin, en 1992 ou 93, était dans ce lieu avec nous. Et voilà que pendant la louange, elle voit des anges au-dessus de cette salle, au-dessus du bâtiment. Et un ange se détache de ce groupe qui est au-dessus du bâtiment et descend dans la salle. Elle le dit à son mari, Jean-Jacques. Et son mari dit, mais t'as qu'à le dire. Et la sœur dit, mais moi je sais pas trop à quoi ça rime. Elle n'a rien dit. Quelques minutes plus tard, ici, sur cette estrade, l'un de mes très chers frères qui m'a vu grandir depuis que j'étais haut comme trois pommes, introduit le service de Sainte-Seine et devant nous tous qui à l'époque nous étions présents, meurt ici sur l'estrade. l'ange de l'Éternel était venu chercher son serviteur. Souvenez-vous, quand Lazare est mort, c'est les anges qui sont venus le chercher. L'ange s'est détaché du groupe qui était au-dessus, est descendu, personne ne savait ce que ça voulait dire. Mais quand Jean est mort, quelques minutes après, ici, devant une grande partie de ceux qui sont là ce matin, nous avons compris ce que l'ange venait de faire. Il cherchait son serviteur. Il y a 4 ans, dans ce lieu, le Seigneur me donnait une vision. Et je voyais un ange descendre dans la chambre de mon frère. Encore une fois, les anges aiment le frère Huttard. Mon frère Huttard, Jean-Jacques, qui avait un cancer du pancréas, pour lequel on lui donnait quasiment aucune espérance. Ils me l'ont dit encore dernièrement lorsque nous étions en face du chirurgien et que nous lui avons demandé « Quelle chance avons-nous ?» Il leur a dessiné un cercueil sur la feuille. Ils en sont sortis traumatisés. Pendant que nous étions là et que lui était en réanimation, alors que le diagnostic était des plus pessimistes, je vois cette vision, je vois un ange descendre dans sa chambre et je l'avais dit publiquement, vous m'en êtes témoin. Pendant ce temps, écoutez bien, dans cette ville, dans une autre église, la femme d'un pasteur qui connaît le frère Jean-Jacques a la même vision et dit à son mari, je vois un ange qui descend dans la chambre de Jean-Jacques. Au même moment, le même dimanche matin, à la même heure, à la même minute. Et mon frère Jean-Jacques a été entièrement guéri d'un cancer qui le condamnait. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alors, s'il y a les anges qui sont des serviteurs de Dieu, des messagers, le terme ange signifie littéralement messager venant de la part de Dieu, qui disent à l'homme la voie qu'il doit suivre, qui peuvent l'interpeller, parfois le protéger sans même qu'il ne s'en rende compte. J'aimerais vous rappeler qu'il y eut également la chute de celui qui était le chérubin par excellence, Satan. Il nous est dit dans Apocalypse 12, verset 9, « Elle fut précipitée le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. » Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Après sa chute, Satan entraîna des anges avec lui. Et nous sommes maintenant confrontés à un monde spirituel dans lequel des esprits agissent, influencent et travaillent. Écoutez ce que la Bible dit. Pardonnez-moi d'être quelque peu maintenant systématique. Je voudrais gagner du temps, mais tout en vous donnant des éléments très clairs. Les démons sont des esprits. Dans Matthieu 12, 43, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Deuxièmement, ils sont capables de s'emparer des hommes et des animaux pour les asservir, exercer une influence sur eux et les posséder. Il est dit dans Matthieu 8, lorsqu'il fut à l'autre bord dans le pays des Gadariniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Ça a été les premiers cochons farcis. Il leur a dit, « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Et elles périrent dans les eaux. J'ai mon ami qui maintenant est près du Seigneur, le pasteur Aldo Benzi, qui me disait alors qu'il arrivait chez une femme tourmentée, qu'il commandait aux esprits méchants de quitter cette femme. Soudain, les démons quittèrent la dame, mais entrèrent dans le chien. Et le chien devint comme fou. Ça dura 4 jours et il est mort. Les démons prennent possession de personnes et d'animaux. Troisièmement, ils sont violents, obstinés, méchants. Et ils connaissent Jésus-Christ. Il se trouva dans leur synagogue, dans Marc 1, 23, un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme. Nous savons, et c'est mon cinquième point, il provoque des maladies. Matthieu 9, 32, « Comme il s'en allait, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. » Le démon ayant été chassé, le muet parla et la foule étonnée disait « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Et j'ai vu personnellement comment quand un démon quitte quelqu'un, la personne est guérie. Je l'ai vécu. C'est une réalité. Encore l'autre jour, je priais à Nice pour une dame qui avait un cancer. Au moment où je prie avec cette dame, et que je commande à l'esprit de maladie qui est là de quitter. Je ne vais pas vous dire que toutes les maladies sont des démons, mettons-nous bien d'accord. Pas plus que toutes les maladies sont le résultat d'un péché que vous auriez commis. C'est pas là mon propos ce matin. Comprenez que je prends des images et des témoignages qui sont en relation avec ma prédication. Mais ne ramenons pas tout à cela. Ce serait déséquilibré. Mais au moment où je prie avec elle, des puissances démoniaques se sont manifestées. Elle a commencé à trembler de tous les côtés. Les démons se manifestaient. Et je sais qu'il y avait là un esprit de cancer. Mes amis, ils rendent malades. Sixième point, et pas des moindres, ils peuvent provoquer de fausses doctrines conduisant à l'abandon de la foi. 1 Timothée 4, 1, Paul dit, mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Faites attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et jamais autant qu'aujourd'hui, il y a eu multitude de doctrines. Et les doctrines dans lesquelles on exalte souvent la chair. Les doctrines dans lesquelles souvent c'est le moi qui est au centre. Mes amis, faites attention. Il sait comment séduire. Je termine. Ils savent. Ils savent que le tourment éternel est leur destin. Il est dit dans Matthieu 8, et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Ils savent qu'un temps vient où ça s'arrête. Pourquoi ont-ils besoin de corps ? Parce que quand ils sont dans un corps, apparemment ils peuvent assouvir leur passion et ils se sentent moins tourmentés. J'ai vécu une expérience que je n'oublierai jamais tant que Dieu me prêtera souffle et vie. Nous avions un week-end de jeûne. Et j'étais avec mon épouse. À cette époque-là, Sarah devait avoir 2 ans et demi, 3 ans. Nous arrivons pour le week-end de jeûne. Vendredi soir, l'accueil classique, etc. Nous nous installons dans la colonie de vacances où nous étions. Et puis, l'heure a avancé. Je suis allé me coucher, Dominique était déjà au lit, Sarah et Jonathan dormaient tous les deux à poings fermés. Ce week-end pour moi était un week-end dans lequel je me réjouissais parce que des jeunes venaient pour recevoir l'évangile. Et puis alors que je suis là dans mon lit, soudain, et je suis réveillé, je pense que vous me connaissez maintenant depuis toutes les années dont vous me rencontrez. J'ai pas le sentiment d'être un hurluberlu qui perd trop souvent les pédales. Ce que j'ai vu, je l'ai vu, et ce qui m'a marqué, je ne peux pas l'oublier. Je suis réveillé dans le lit, ma femme dort, ma fille et mon fils dorment à poings fermés. Tout d'un coup, la porte de ma chambre s'ouvre, et j'ai un être comme je n'en avais jamais vu, qui entre dans la chambre. Il avait un corps d'homme, mais avec une tête de bouc, et des pieds comme un bouc, comme certaines représentations. Mais moi, je m'y attendais pas du tout. Je vois cet être hideux qui rentre, je sens une oppression terrible. Écoutez bien, à ce moment-là, ma petite fille Sarah, qui dormait, s'assied droit dans le lit et se met à hurler. Je commande à cet esprit de quitter. Au moment où je dis au nom de Jésus, tu n'as aucun droit, ni sur nous, ni sur ce week-end. L'esprit claque la porte, s'en va. Sarah se recouche et dort. Nous avons eu des conversions, des délivrances, des baptêmes dans le Saint-Esprit comme rarement pendant ce week-end. Le monde spirituel est un monde présent et qui exerce son influence sur les non-croyants. Mais ne l'oubliez pas, les croyants aussi. Il exerce son influence. Le combat spirituel, c'est mon deuxième point ce matin. En quoi consiste-t-il ? Écoutez, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Voilà ce que dit Paul. Le combat spirituel peut commencer sans que toi-même tu ne t'en rendes compte. Écoutez ce que Daniel vivra, chapitre 10, versets 12 et 13. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais vois, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Daniel avait une vision. À partir de la vision, il a décidé de jeûner. Non pas un jeûne complet, mais toutes les boissons alcoolisées, toutes les viandes, tout cela, il a laissé de côté. Il cherchait la face de Dieu. La Bible nous dit, il s'est humilié. Nous sommes devant une semaine où nous allons nous humilier devant Dieu. Nous sommes devant une semaine où nous allons jeûner. Mais pendant que nous jeûnons, il y a une guerre. Nous ne nous en rendons pas compte. Vous et moi, vous êtes assis là. Mais pendant que je prêche, vous n'imaginez pas ce qui est en train de se produire. Alors certains diront, mais il est fou. De quoi parle-t-il? Ça n'existe pas. C'est pas parce que vous ne croyez pas, c'est pas parce que vous n'avez pas vu les ondes qu'elles n'existent pas. Mes amis, Daniel, et là, j'aimerais relever quelque chose d'important. Avez-vous remarqué que Daniel ne luttait pas contre les puissances? Avez-vous une seule fois vu que Daniel était en train de lier l'esprit du roi de Perse? Avez-vous une seule fois vu que Daniel était en train de lutter contre les puissances du roi de Perse? Des puissances, aujourd'hui on parle de puissances territoriales, etc., etc. Le seul problème de Daniel, c'était d'être en communion avec Dieu. Et pendant que lui est en communion avec Dieu, ce sont les anges de l'Éternel qui combattent pour lui. C'est pas lui qui combat ses puissances, c'est Dieu qui combat pour lui. Lui, sa seule préoccupation, c'est d'être en relation avec le Seigneur. Et là, je dis quelque chose d'extrêmement important. Dans la Bible, vous ne trouverez pas, ni parmi les disciples, ni dans la bouche de Jésus, ni dans l'Ancien Testament par ailleurs, une seule prière où serait engagée une lutte contre des puissances démoniaques sur une ville, sur une région, sur un pays. Vous ne le trouvez pas. Pourtant, Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Pourtant, Daniel, l'ange lui révèle que c'était le prince de la puissance de Perse. Ces puissances existent, c'est une réalité. Mais notre préoccupation ne doit pas être... Qui est contre moi? Mais Dieu peut-il être avec moi? À partir de ce moment-là, c'est le Seigneur qui combat pour vous. C'est lui qui combat pour vous. Regardez ce que Paul dit, par exemple. Lorsqu'il nous invite à prier, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu sait quelle puissance s'oppose à nous et Dieu sait qui il enverra pour combattre pour nous. Ceci dit, le seul moment où la parole nous montre qu'il faut parler et donner des ordres aux démons, c'est quand nous les chassons. Marc 1, 25 et 26. Oyez. Est-ce que tu pourrais me servir un verre? Merci, cher Benjamin. Marc 1, 25-26, Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme !» Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Merci mon chéri. Nous devons commander quand nous sommes confrontés aux puissances, quand nous les chassons. Et pourquoi devons-nous les chasser ? Parce qu'ils veulent pas partir. Ils sont bien installés dans les corps. Ils aiment être dans une présence physique. Ils apprécient cela. Je vous l'ai dit dernièrement, j'ai une personne, et je reste le plus vague possible, qui vient dans mon bureau, et nous avons parlé ensemble tout un temps. Et à un moment donné, à la fin, je lui dis simplement, je vais prier pour vous. Au moment où on prie, je la touche pas, je prie. Waouh ! Et je sais que des frères vivent cela au milieu de nous régulièrement, que le Seigneur les bénisse, les encourage. Ça a été la révolution. Mon bureau s'est changé en champ de bataille. Claude, mon très cher frère Claude, avait un entretien avec une dame juste dans le bureau à côté. La dame a pris peur. Lui, il avait l'impression que le bureau se faisait démonter et ça durait comme ça 1h30. Je la laissais faire. Elle circulait, elle rampait par terre, elle montait dans les coins, elle hop. Et quand je commandais, des voix d'hommes sortaient, des râlements d'animaux. Et je disais maintenant, au nom de Jésus, tu la quittes, au nom de Jésus. Et tout d'un coup, comme un ressort qui casse, elle était libre. Et elle me dit, pasteur, j'ai l'impression d'avoir maigri. Alors je l'ai regardé. Je dis, je crois pas. Je crois pas que tu as maigri. Mais il y a beaucoup de monde qui a déménagé. Beaucoup de monde a déménagé. Et quelqu'un a emménagé. C'est Jésus. Commandez aux démons, oui, quand vous les chassez. Le combat spirituel ne commence pas quand vous commandez aux démons. Le combat spirituel commence quand vous cherchez la face de Dieu, quand vous cherchez à vous humilier, quand vous cherchez sa présence, quand vous cherchez à le servir, quand vous l'adorez. À ce moment-là, le combat commence. Le diable fera toujours tout pour vous détourner de ça. Est-ce que vous avez déjà remarqué quand vous cherchez la face de Dieu, le nombre de pensées qui vous viennent ? Vous avez déjà remarqué ? Il suffit que vous vouliez prier sérieusement. T'as pas fait ceci, t'as pas fait cela. Ou alors des pensées de blasphème. Parfois on est surpris, on est effrayé. Mais comment ai-je pu penser une chose pareille ? Tu es entré dans un combat. La prière n'est pas anodine. La prière est un moment dans lequel, quand toi tu cherches la face de Dieu, le monde des ténèbres est dérangé. Elle fera tout pour essayer de te museler et de t'arrêter. Si tu as conscience de cela, tu sauras aussi comment réagir quand ces choses-là viennent. Troisième point. Me laissez-vous encore du temps. Ah, c'est beau. Trois m'ont dit oui. L'annonce de l'évangile est un combat spirituel intense. Et là, j'en viens au fond à ce que je veux réellement vous dire. Le combat spirituel ne consiste pas pendant des heures à commander. Le combat spirituel consiste à faire ce que Jésus a dit. Et vous allez bien me suivre maintenant. Lorsque l'église de Jésus-Christ, lorsqu'un disciple de Jésus commence à entrer dans la grande vision, c'est-à-dire aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, à ce moment-là s'engage la guerre. Et je vais vous dire pourquoi. Annoncer l'évangile ne se limite pas à parler de Jésus, parce qu'au moment où je commence à le faire, une bataille est engagée dans les ténèbres. Écoutez ce que dit Paul. J'aimerais vraiment que ça s'inscrive là, pour que vous compreniez ce qui peut-être parfois vous dépasse dans les réactions de ceux qui sont en face de vous lorsque vous parlez de Jésus. Écoutez ce que dit Paul. « Je t'ai choisi, dit Dieu à Paul, du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Mon frère, il n'y a pas de no man's land spirituel. Tu es ce matin ou dans les ténèbres ou dans la lumière. Tu es ou sous la puissance de Satan ou sous la puissance de Dieu. Mais comprenez que quand vous commencez à annoncer l'évangile, il faut qu'on change un jour ce pupitre, hein, c'est tellement délicat. Quand tu commences à annoncer l'évangile, tu entres en guerre. N'imagine pas que quand quelqu'un est dans le royaume des ténèbres et que tu viennes lui parler, que celui qui le tient captif va le laisser partir comme ça. Non seulement il va le tourmenter pour qu'il ne t'écoute pas, non seulement il va lui dire « mais il est timbré, il est cinglé, celui-là ne l'écoute pas », mais il va essayer de t'arrêter toi. Il va essayer de t'arrêter toi, de te décourager toi. Je pars parfois en évangélisation, parfois assez souvent d'ailleurs. Excuse-moi. Il y a quelqu'un qui réagit là au premier rang. Mais je peux vous dire, régulièrement quand je pars, il se passe quelque chose à la maison. Et des trucs, par exemple, écoutez, on a eu 5 feux de cheminée. Et en règle générale, souvent quand je partais, hop, à la maison ça prenait feu. Ou des enfants qui tombaient malades, ou ceci, ou cela. Pourquoi ? Parce que quand tu évangélises, tu montes sur un ring de boxe. T'as déjà vu un boxeur qui monte sans prendre de coups ? Eh oh ! Croyez qu'ils sont là ? Ouh ! Ouh ! Vous croyez que le diable vient comme ça ? Samuel, arrête ! Je vais te taper ! Je vais te taper ! Quand il monte sur le ring, il est décidé à en décrocher une bonne à Samuel. Mais c'est pas Samuel qui combat. C'est l'Éternel qui combat pour lui. Je vous explique pas le retour. Je vous explique pas les crochets qu'il prend lui. Mon frère, ma sœur, Jésus connaît parfaitement le monde spirituel. C'est pourquoi, après qu'il ait dit « allez par tout le monde », est-ce que vous avez déjà remarqué ça ? Est-ce que vous avez déjà remarqué ça ? Après que Jésus ait dit « allez par tout le monde », quel est le premier signe, le premier miracle qui accompagne ceux qui croient ? Dites-moi. Le premier signe, ils chasseront les démons. Parce que Jésus savait pertinemment que quand nous irons et que nous annoncerons, les démons se manifesteront. Je vous l'avais dit, un jour j'arrive en Suisse et je dois enseigner dans un institut biblique. Un des étudiants vient me voir, alors c'est surprenant, et il me dit « je dois vous parler ». Je dis « ah bon ? Mais je viens à peine d'arriver, je suis fatigué, on peut pas se voir demain ?»« D'accord, demain ». Le lendemain il vient et comme il avait avec lui un responsable de formation, ils sont venus les deux. On rentre dans la pièce et je lui dis « allez-y jeune homme ». Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Il me dit, écoutez, je sais pas, mais votre tête me revient pas. Vous m'énervez. Et purée, moi j'ai fait 300 bornes pour entendre un gars. Vous m'énervez. Et j'ai vu son responsable le regarder. Et à ce moment-là, je lui dis, dis-moi, pour toi, qui est Jésus ? Et là, une insulte est sortie. C'était celui qui était en lui qui supportait pas ce qui était en moi. Pas Samuel, ils en ont rien à faire de Samuel. C'est ce qui habite en vous qui est important. À ce moment-là, je lui dis, au nom de Jésus, tu le quittes. Ah ben tiens, ça m'a fait du bien, ça m'a débouché les oreilles au moment où je fais ça. C'est moi avec ma grippe là, mon rhume et tout. Ça y est, maintenant je vous entends bien. Depuis le début, j'ai l'impression d'avoir une cagoule sur la tête, j'entends mal. Je me suis dit, ils sont pas pareils ce matin, ils sont pas pareils. Ça va mieux. Et il est libéré! Son responsable! Oh, mais frère, c'est possible? Bah, je dis, regarde, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais comment t'expliques ça? Écoute, moi, je veux pas faire de grandes théories. La Bible dit, quand il y en a, tu le chasses. Voilà. À partir de ce jour-là, chaque fois que j'étais en Suisse, à quelque part, je voyais un jeune homme qui faisait, Pasteur, Samuel, je suis là. Pendant les jours de formation, il m'a plus lâché, pire que Dominique. Partout. Il était tellement heureux. Ouf. La guerre spirituelle, c'est quand l'Église se lève et dit nous allons gagner notre pays à Jésus. À ce moment-là, ça bouge. Il s'agit pas de t'enfermer pendant des jours à lier et relier et relier encore. Il s'agit de témoigner. Et tout d'un coup, ça se manifeste. Ça se lève comme les lapins. Waouh! Écoutez, comment a-t-il envoyé ses disciples? Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chanter des berceuses, de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il t'a donné ce pouvoir. C'est pas réservé à une élite. C'est pour toi dans la mesure où tu te mets à l'œuvre. Lisez les évangiles. Jésus chassait beaucoup de démons. Mais Jésus évangélisait beaucoup. Jésus évangélisait beaucoup et vous remarquerez que Jésus chassait essentiellement les démons pendant qu'il annonçait la bonne nouvelle. Elle dira, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Vous devriez hurler de joie. Yeah! Quelle autorité! Que se passait-il lorsque Jésus arrivait dans un lieu? Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler puisqu'ils savaient qu'il était le Christ. Il se passait quelque chose. Est-ce que quand tu arrives à quelque part, il se passe quelque chose? Excusez-moi, j'ai posé la question à gauche. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Alléluia! Il se passe quelque chose! Les vies changent! L'autre jour, j'étais tellement bouleversé. Ma sœur m'en est témoin. J'ai vu un jeune homme changer. Mais c'est Jésus seul qui peut faire ça. Nous, on est spectateurs. Toute la gloire à lui. Quel fut le rapport des 70 quand ils revinrent de leur tournée d'évangélisation? Quel fut le rapport? Écoutez, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et qu'est-ce que dit Jésus? Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Dites-moi qu'il n'y a pas de combat spirituel quand on annonce l'évangile. Ah! Tu t'es engagé dans le quartier libre et tu prends des coups. Tu trouves ça étonnant? Ah bon, vous êtes engagé dans un service dans l'église et vous prenez des coups. Et vous vous étonnez. Ah, vous pensez que c'est les gens qui sont méchants? C'est pas les gens qui sont méchants, c'est ce qui est derrière eux qui est méchant. Imaginez un seul instant. Par la grâce de Dieu, nous avons la grâce de voir des démons quitter les gens. L'autre jour à Nice, une dame vient, elle pleurait, elle me dit « Vous voudriez bien prier pour moi ?» Je dis « Oui, allons-y. » Je prie pour elle, et au moment où je prie, elle se met à hurler, elle tombe par terre, elle part dans tous les sens, et alors je la regarde, et puis au bout d'un moment, elle ouvre les yeux, elle dit « Qu'est-ce qui m'est arrivé, monsieur? Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Je dis « Jésus vous a libéré. » Elle dit, qu'est-ce que c'est? Je me sens bien. Monsieur, j'ai une paix que j'avais jamais. Imagine ce qui se passe quand tu témoignes à quelqu'un chez lequel il y a beaucoup de locataires. Hello? Vous savez, là, il n'y a pas besoin de faire de réquisition de logement, hein. Eux, ils viennent sans demander à personne. Imaginez quand vous témoignez à quelqu'un qui est tenu. Vous croyez, un jour, ici, je prêchais sur l'efficacité de la parole de Dieu. Et je prêche. Et tout d'un coup, là, dans le petit coin là-bas, un cri, la ferme! Et une délivrance, mais ça a duré assez longtemps, hein. Et puis, quand j'ai vu la personne plus tard libérée, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle me dit, écoute, pendant que tu prêchais, moi j'avais des voix en moi qui me disaient, dis-lui de se la fermer. Dis-lui de se la fermer. Dis-lui. Alors elle dit, j'étais arrivé à me contrôler, je me contrôlais, je me retenais. Mais ça continuait, dis-lui de se la fermer. Et tout d'un coup, c'est moi qui ai plus pu la fermer. Ah! Si vous comprenez ça, quand quelqu'un réagit violemment alors que vous lui parlez de Jésus, vous savez ce qui se passe. Et vous vous inquiétez pas. Certains me disent, j'ai parlé, il s'est moqué de moi, je suis déçu. Oh yeah, c'était déjà déçu là. Satan tombait du ciel comme un éclair. Vous croyez qu'il aime se casser la figure comme ça? Mes amis. Et rappelons-nous que lorsque l'ange Gabriel fut confronté à lui, il ne lui parla pas par injure. Parfois, il me semble que les chrétiens sont parfois un peu légers avec le monde démoniaque. J'aimerais vous dire que c'est très sérieux. Et nous ne pouvons pas nous permettre de parler à Satan n'importe comment. Cependant, nous devons utiliser notre autorité, celle que Jésus nous a donnée. Maintenant, conséquence du combat, et j'arrive à la fin. C'est qui a dit « Ah » C'est Dominique. Bien. Pierre dit, 1 Pierre 4, 12 à 16, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. » Quand tu annonces l'évangile, alors une fournaise commence pour toi. Quand tu es un vrai témoin de Jésus, quand tu es un vrai disciple, quand tu te sanctifies, alors il y a un combat qui commence, une fournaise. Mais il n'y a pas que toi. Tous ceux qui veulent vivre pieusement connaissent cela. L'essentiel, c'est que tu ne sois pas dans la fournaise à cause de tes fautes. Si c'est parce que tu sers le Seigneur, réjouis-toi. Comment ça va se traduire ? L'ennemi va essayer de te démoraliser, de te déprimer. Tu vas peut-être avoir parfois des trahisons, des déceptions. Il se peut aussi que cela se traduise par une oppression physique. J'ai vécu cela. Il m'est arrivé d'avoir des luttes terribles. Aujourd'hui, je peux le dire assez librement. À l'époque, je ne pouvais pas. Il m'arrivait parfois de prêcher l'évangile. Et pendant que je prêchais, des voix hurlaient en me disant « Tais-toi ». Moi, je regardais l'auditoire. J'essayais de me concentrer sur ma prédication. Et en même temps, j'avais cette lutte simultanée. Parfois, je me disais « Seigneur, si tu ne me secours pas maintenant, je vais tomber par terre ». Et Dieu m'a toujours secouru, toujours, 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 toujours. Il te laissera jamais, 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 jamais. Tu vas le ressentir par des attaques dans tes pensées, par des tentations, par des tensions dans ton couple. Demandez Dominique. Non mais attendez, ça c'est... Moi je suis déjà... J'ai déjà vécu des délivrances quand je suis arrivé à la maison. Waouh! J'avais l'impression d'avoir un lion. Pourquoi? Parce qu'il y avait une oppression sur elle. Et le diable tout de suite se dit, tu m'as donné un coup, mais je vais t'en rendre un. C'est pourquoi il nous faut être vigilants vigilant. Et quand maintenant je vois mon père m'a appris, quand il pleut, sors pas le nez, reste dedans. Donc quand je vois, je me retire et je commence à prier. Je dis, Seigneur, merci parce que tu donnes à ma petite femme de saisir qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train de se passer. Je devais visiter un malade à l'hôpital. C'était comme ça. Je me lève le matin, à 11 novembre, je me lève. J'étais mal. Vous savez ces jours où vous vous supportez pas vous-même? Ça vous est déjà arrivé? Quand tu te regardes dans la glace, tu te dis, mais quelle tronche aujourd'hui, mais quelle tronche? Et dès le matin, j'étais nerveux, j'étais agité. En plus, c'était 11 novembre, je me suis dit, je vais visiter personne, je vais faire ça cool. Dès que je me lève, elle m'emmène une liste de tout ce qu'il y a à faire dans la maison. Faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Déjà, j'avais les cheveux comme ça. J'avais les nerfs qui courent ici. Bien. Midi, mon père vient manger. Je sais pas si tu t'en souviens. Il vient manger avec ma mère et j'étais désagréable avec eux. Ma femme le matin, j'étais tellement nerveux, elle m'a dit, va faire des visites, va. Vous voyez comme elle est gentille, hein, va voir les autres. Alors, il vaut mieux que les autres te subissent que moi. Et tout d'un coup, lui dit, ah, cet après-midi, l'oncle Michel a anniversaire, on va manger le gâteau là-bas. Il dit, tiens, ça va me détendre. Parce qu'en plus de ça, ce soir-là, je devais prêcher en Suisse. Et je me disais, mais qu'est-ce que tu vas prêcher? T'as pas vu comme t'es? T'es pire que ceux qui vont venir t'entendre. Et ça me travaille. Tout d'un coup, un coup de fil. Allô, pasteur, j'ai un jeune là à l'hôpital. Vous voulez venir prier pour lui? Vous savez ce que ça fait? Ça m'a énervé. Ah oui, mais attendez, j'ai un programme maintenant. Le programme, c'était manger le gâteau chez la tante. Vous voyez. Ça, c'était le programme. Et finalement, je lui dis, bon, alors vous venez tout de suite, hein, vous vous dépêchez, je vous attends, on y va et puis je rentre. Hein. Mais j'étais insupportable. J'arrive à l'hôpital, il y a là un jeune homme de 17 ans. La fièvre ne le quitte pas. Je rentre dans la chambre. Et là, je dis, Seigneur, viens mon secours. Moi, je connaissais mon état intérieur. Lui, il voyait pas. Il dit, Saint-Esprit, tu es là. Je prie pour lui maintenant. Il était rouge de fièvre. Ils disent, les médecins n'arrivent pas à la faire baisser. Je mets ma main sur lui. Au moment où je mets ma main sur lui, et je commence à prier, Seigneur, tu as commandé à la fièvre de quitter. Lui, dans l'hôpital, moi, ah! Si le docteur arrive, il va croire que je fais hurler les patients. Et il a perdu connaissance. J'étais là, j'ai ouh, ouh, ouh. Je suis parti de l'hôpital, il était libéré de sa fièvre. Et écoutez bien. Et moi, j'avais retrouvé ma paix. Le diable savait très bien le matin ce qui allait se passer l'après-midi. Quand parfois tu es anormalement nerveux, commence à te dire, il y a quelque chose qui va se produire et qui dérange quelqu'un. Hello ? Maintenant, je termine. Comment réagir ? Finalement, c'est ça ce qui nous intéresse. Comment réagir ? Écoutez, Jésus dit à ses disciples avant de les envoyer, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Nous avons besoin non pas de grandes théories, mais de la présence de Dieu sur nos vies. Et la présence de Dieu va se développer dans ta relation personnelle avec lui. Tu n'as pas besoin de savoir qui est contre toi, pourvu que tu saches qui est avec toi. Deuxièmement, et là je prends Daniel et je suis systématique, il est dit de Daniel, il y avait un esprit supérieur en lui. Le Saint-Esprit est cet esprit supérieur qui est en nous. Deuxièmement, Daniel était en communion 3 fois par jour, un homme de prière, de jeûne, il savait s'humilier. Troisièmement, la Bible nous dit qu'il était irréprochable. Et là, normalement, tout le monde crie « Amen ». Regarde ton voisin, dis-lui, tu vas être irréprochable. Dominique, irréprochable. Est-ce que tous mes fils sont là? Josué, Jonathan, irréprochable, papa Jean. Il y a un sacré programme, hein? Et je suis le premier concerné, hein? Moi, j'aime ces amens spontanés. Ils traduisent tout ce que le cœur pense, hein? Troisièmement, la Bible nous dit qu'avant d'avoir une réponse à sa prière, Daniel a persévéré 21 jours. Il a rien vu, mais il a persévéré. Mon frère, ma sœur, persévère. À partir du moment où tu as conscience du combat, persévère. Et souviens-toi, tu es peut-être dans la fournaise, Shadrach, Meshach et Abednego étaient aussi dans la fournaise, mais il y avait un quatrième homme avec eux. Il sortit de la fournaise, leurs vêtements ne sentaient pas le brûler. Tout ce qui est tombé, c'est leur lien. J'aimerais maintenant que nous fermions nos yeux. Et j'aimerais pour terminer faire quelque chose d'inhabituel. J'ai été touché dernièrement par un chant. J'aimerais en conclusion vous dire ce matin, le jour où vous êtes devenu enfant de Dieu, où vous êtes devenu disciple de Jésus, vous avez rejoint la famille de Dieu, l'Église de Christ et son royaume. De ce fait, vous êtes entré automatiquement dans un conflit spirituel auquel vous prenez partie du fait de votre appartenance. Par votre appartenance, vous vous déterminez et vous déterminez le camp dans lequel vous êtes. Que tu sois gardien du parking ici, technicien au son, moniteur, chanteur à la chorale. Ma petite sœur Aline, si parfois ça bouge, t'étonne pas, c'est normal. Si t'es musicien et si parfois vous sentez il y a des tensions qui viennent, eh bien commencez à vous unir, prier et remporter le combat ensemble. Si dans les écoles du dimanche il y a parfois des tensions, sachez qu'il y en a un qui cherche à mettre la division. Parce qu'il sait à ce moment-là vous ne servirez plus. Tu viens peut-être faire le ménage, d'autres choses, tu témoignes dans la rue et tu es attaqué. Sache que c'est normal. Dieu a donné une vision pour cette église. Il nous a dit plusieurs fois et de différentes manières que nous serions une lumière pour ce pays et au-delà, ainsi qu'un sujet d'encouragement. Et je le dis avec humilité parce que nous n'avons rien mérité et aucun d'entre nous ne mérite quoi que ce soit. C'est une grâce. Mais de différentes manières, alors que Dieu avait donné une vision, un rêve à Papa Jean, de différentes manières, Satan a essayé de nous arrêter, de nous décourager. Nous avons connu des luttes au-dedans et au-dehors, mais la vision continue. Et maintenant, avant que je demande à ce que ce chant soit mis sur les écrans, peut-être qu'on pourrait éteindre les lumières dans la salle pour que chacun voit bien. Si Dieu, mon ami, si Dieu, mon frère, ma sœur, a mis un rêve dans ton cœur, si Dieu a une vision dans ton cœur, une promesse venant de lui, Satan cherchera à la détruire. Mais ce matin, j'aimerais te dire, toi persévère et tu triompheras. Persévère et tu triompheras. Et tu triompheras. Pourrions-nous nous lever à notre place et écouter les paroles de ce chant? Est-ce qu'on peut lancer le chant, s'il vous plaît? Écoutez bien les paroles. Restez là dans la présence de Dieu. Et nous terminerons comme ça. Et je souhaite une bonne après-midi à chacun et à chacune.
Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Thank you.
grave, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Tu es appelé à être vainqueur en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Prions ensemble. Seigneur, je te bénis parce que tu es là ce matin. Je te loue parce que nous sommes, c'est vrai, dans un combat spirituel, mais tu as vaincu pour nous. Nous connaissons l'issue du combat, c'est notre victoire. Que ton nom soit béni, que mes frères et sœurs soient fortifiés et encouragés. À ton nom seul soit l'honneur, la louange, la gloire, au siècle des siècles. Donne-leur l'autorité, donne-nous l'autorité, que nous allions prêcher la bonne nouvelle, que nous mettions l'ennemi en échec, et que, Seigneur, notre pays soit sauvé, que l'Allemagne soit sauvée, que la Suisse soit sauvée. Seigneur, nous croyons qu'il y aura plus d'hommes, de femmes arrachés aux ténèbres qu'il n'y aura dans les ténèbres si nous nous mettons en route. Que ton nom soit glorifié. Amen.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.